Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Pauline. Elle exerce le métier mal connu d'éducatrice spécialisée auprès d'enfants et d'adolescents en service de pédopsychiatrie. Je souhaitais qu'elle parle à mon micro afin de nous expliquer son rôle si important auprès de ces jeunes patients. Bonne écoute. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va, merci. Je suis très contente de pouvoir être à ton micro aujourd'hui.
C'est moi qui suis ravie. Très contente de t'avoir à mon micro aussi. Je te laisse te présenter pour démarrer.
Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans. Je suis la maman d'une petite fille, d'une petite Juliette qui va avoir 2 ans bientôt. Et donc, je suis mariée aussi. J'habite dans le Morbihan et je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie depuis maintenant 5 ans. C'était entre autres pour ça que je souhaitais être reçue par toi pour pouvoir parler un petit peu plus de ça.
Écoute, tu es au bon endroit. On va rembobiner un petit peu les choses. Est-ce que tu peux me dire, toi, quel métier tu te voyais faire quand tu étais petite ou même adolescente?
Alors, petite, je me voyais plutôt ou vétérinaire ou avocate. Et puis, bon, petit à petit, j'ai appris qu'en fait, il fallait faire des études très longues. Donc, l'un comme l'autre ne m'allait pas. Il me fallait une formation assez courte. Mais je me destinais plutôt ou dans le soin avec les animaux ou la notion de justice et défendre les plus fragilisés. C'était quelque chose qui me plaisait.
Et puis, tu t'es dit, bon, probablement un peu trop long en termes d'études. C'est sûr qu'avocat ou vétérinaire, ouais, tu pars pour...
C'est ça.
Si c'est pas 10 ans, c'est presque, ou même un peu plus pour vétérinaire, je crois.
Maman, je me suis dit non, c'est un peu trop ambitieux. Et puis, tu vois, c'est vers 15 ans, vers la troisième, que j'ai commencé à m'intéresser au métier d'éduc. Et puis, ça s'est confirmé petit à petit avec le temps. Et c'est vrai que ça a été un projet auquel moi, j'ai dû me rapprocher parce que mes professeurs n'étaient pas du tout soutenants. C'est vrai que j'avais une scolarité plutôt chaotique, on va dire. Tu vois, avec un redoublement en troisième, en terminale, j'ai pris du temps pour obtenir mon bac. Puis, je voulais absolument un bac général parce qu'effectivement, les concours, à l'époque, les concours d'entrée en école d'éduc étaient quand même assez difficiles. En tout cas, on demandait quand même une culture générale assez importante. Et puis, je me suis accrochée parce que je savais que si j'avais pas mon bac, je pourrais pas obtenir les concours. Et puis après, j'ai fait une année de prépa à Rennes et j'ai passé les concours et puis j'ai été reçue dans plusieurs écoles et j'ai choisi celle de Nantes.
Aujourd'hui, tu m'avais dit que les études fonctionnaient différemment, probablement plus le même système de sélection. Est-ce que tu as une idée de comment ça se passe?
Alors apparemment, maintenant, il faudrait passer par... parce que moi, à l'époque, c'était donc un concours avec un écrit et un oral. Et là, maintenant, il faudrait passer par Parcoursup pour pouvoir être sélectionné en fonction de son dossier scolaire. Et à partir de cette première sélection, on est reçu à l'oral ensuite pour intégrer la formation. C'est ce que j'ai compris, je me trompe
peut-être. Ouais, c'est complètement différent.
Ah bah ouais, complètement.
Et comment t'avais entendu parler de ce métier, toi, du coup, quand t'avais 14-15 ans? Comment est-ce que quelqu'un dans ton entourage exerçait la même profession?
Alors, non, mais moi, j'ai une maman qui est infirmière psy, déjà, à la base. Donc, tu vois, on reste un peu quand même dans le même milieu, même si c'est pas le milieu du social, mais c'est quand même un métier dévoué aux autres. Je m'intéressais beaucoup au métier du social, justement. Donc, j'avais fait des recherches à ce sujet. Et puis, c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, c'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça que je... Comme si quelque part, je savais ce que je voulais faire, mais je ne mettais pas de mots dessus, et que c'était venu vraiment affiner les choses, quoi.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Oui, tu as découvert le métier, tu t'es dit, c'est tout ce que je veux faire, c'est tout ce qui m'intéresse, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en même temps, on m'invitait beaucoup à me réorienter un peu, à réfléchir à un autre projet professionnel, parce qu'on me disait, tu te rends compte, Pauline, t'es quand même la moins bonne de la classe. Là, ça nécessite un concours d'entrée quand même, faut être la meilleure. Réfléchir à une autre alternative parce que faut envisager tous les possibles et du coup ça me mettait mal parce que moi je voulais surtout pas faire autre chose, passer par une voie universitaire ou tout ça, c'était pas du tout pour moi, quoi.
Bravo, hein, à ton jeune âge d'avoir réussi à
à garder le cap, quoi, puis à te focaliser sur ça, puis tu savais déjà que c'était fait pour toi. Franchement, bravo, hein.
Ouais, après, tu vois, j'ai pris mon temps quand même pour essayer d'aller, enfin, tu vois, bon, j'ai pris de la maturité, puisqu'au final, j'ai eu mon bac, je suis en début d'année en plus, donc tu vois, mon bac, je l'ai eu, j'avais 20 ans et demi. Je pense que finalement, ça a été compliqué, hein, parce que c'est pas simple non plus d'être en classe de terme avec des deux fois plus jeunes, quoi. Mais au final, ça m'a quand même permis de vachement mûrir les choses et puis de d'être sûre aussi de ce que je voulais faire. Et puis de m'armer pour pouvoir y aller, quoi.
Quand on parle de vocation, pour moi, c'est ce que ça m'évoque quand tu parles de tout ça, quoi. Vraiment, contre vents et marées, garder son idée en tête, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et cette formation, elle se déroule comment, du coup? Sur combien d'années? Comment elle s'articule? Comment ça se passe?
Alors, du coup, c'est une formation qui se déroule en 3 ans, avec, c'est une formation en alternance, avec 3 stages. Des stages relativement longs, hein, puisque moi à l'époque c'était un stage d'une 21 semaines, un autre de 12, un autre de 28. Donc c'est sur 3 ans avec des cours théoriques et des stages. Moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir mes lieux de stage, donc ce qui est plus trop le cas maintenant. Et à l'issue de ces 3 ans, donc tu passes différentes épreuves et tu as un diplôme d'état d'éducateur spécialisé.
D'accord. Et justement, alors ces stages, qu'est-ce que toi tu avais sélectionné comme établissement, comme institution?
C'était pas évident parce que il y en avait beaucoup qui prenaient pas de première année, en fait. Donc, ça réduisait beaucoup les secteurs. Mais moi, j'avais fait mon premier stage en institut médico-éducatif. Un établissement qui le relève du secteur médico-social, avec des enfants de, on va dire, 3 ans à 12, 13 ans, qui présentent des déficiences intellectuelles, avec ou pas des handicaps associés. Et donc, j'avais intégré une équipe, et puis j'avais fait un stage qui m'avait beaucoup intéressée, hein, pour apprendre, voilà, ce qu'était la relation éducative, comment on pouvait accompagner ces enfants avec toutes leurs difficultés, et puis les profils très différents, hein, parce qu'on pouvait avoir des enfants, tu vois, avec des profils un peu trisomiques, d'autres avec des syndromes Gilles de la Tourette, en plus avec des profils où certains avaient des prises en charge multiples, pas que en IME. Donc, ouais, c'était très intéressant. Et puis le deuxième, je l'avais fait en foyer de vie, ça dépendait d'une association qui accueillait des personnes, du petit jusqu'à des personnes âgées. Moi, j'avais fait avec des adultes et qui présentaient pour le coup des déficits sensoriels. Donc, qui étaient ou aveugles ou sourds, ou malentendants ou malvoyants. Et donc moi, je travaillais sur un foyer de vie avec des adultes. Et puis l'idée, c'était comment travailler au quotidien. Donc je travaillais avec des soignants pour essayer de maintenir leur autonomie, essayer de communiquer aussi. Et puis travailler la socialisation. Enfin, il y avait plein de choses très intéressantes aussi. Et puis le dernier, je l'ai fait dans le cadre de la protection de l'enfance. C'était vraiment ça qui m'attirait le plus, en fait, à mon entrée en formation. Dans un foyer éducatif avec des adolescents on était sur du 9-16 ans, placés, donc on parlait de social à l'enfance, avec des jeunes qui avaient des profils, voilà, qui ont rencontré beaucoup de ruptures dans leur vie, qui étaient très fragilisés, et puis qui avaient des grosses difficultés familiales. Et qui étaient là souvent pour un long moment, quoi.
Et t'es arrivé déjà, malgré ton jeune âge, à encaisser des histoires de vie pareilles, à garder un regard sur tout ça? Comment ça se passait émotionnellement pour toi?
Alors, il y avait des moments où c'était pas évident, hein, c'est vrai. Mais ce qui était intéressant, c'est justement la formation, elle est faite de telle manière que t'as des temps de stage d'une semaine ou deux, puis après tu reviens en formation. Et on avait vraiment des temps de formation où on était des groupes de 10. Où on pouvait vraiment faire une sorte d'analyse de la pratique, hein, revenir sur nos expériences, sur nos vécus aussi émotionnels, pour pouvoir en parler, pas rester avec ça justement, et pour pouvoir retourner sur nos lieux de stage un peu plus, en mettant les choses un peu plus à distance, pour pouvoir justement accompagner au mieux les personnes, parce qu'en effet, faut surtout pas rester avec nos émotions à vivre, quoi, parce que ça aide pas, quoi. Donc
des bons débriefings avec vos formateurs pour reprendre ce que vous aviez vu, les situations qui vous avaient peut-être un peu choqué, interloqué, des choses comme ça.
C'est ça.
Ok. Bon, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Et ensuite, sur le côté théorique de la chose, j'imagine pendant la formation, vous avez balayé les différentes maladies psychiatriques, les troubles neurologiques. Vous avez essayé d'avoir un regard assez vaste sur tout ça pour essayer de comprendre ce que ça engendrait derrière ?
Alors, pas vraiment, parce que tu vois, en fait, la psychiatrie, c'est très, très peu abordé, en fait, hein, en formation d'éduc. Il faut savoir que les postes d'éducateurs spécialisés en psychiatrie sont très rares, il y en a très peu. Néanmoins, moi, dans ma formation, on en a quand même un petit peu parlé. J'ai eu une semaine de formation sur les 3 ans, ça reste, tu vois, quand même assez léger, sur la psychiatrie, ouais, et en particulier l'ethnopsychiatrie. Mais par contre, en fait, nous, sur les 3 ans, le métier d'éducateur spécialisé, c'est qu'on peut accompagner des populations qui sont en difficulté, mais quel que soit l'âge, quel que soit le secteur d'activité, d'intervention. C'est-à-dire que on peut accueillir des tout-petits, on peut accueillir des ados, des adultes et des personnes âgées, que ce soit dans le champ de la protection de l'enfance, dans le champ médico-social, dans le secteur sanitaire comme c'est mon cas, mais aussi en milieu pénitentiaire. On peut aussi travailler avec les gens du voyage. Moi, j'ai travaillé aussi dans la protection judiciaire de la jeunesse. Nos secteurs d'intervention sont tellement larges que finalement, en formation, on balaye un petit peu tous les publics, aussi avec des personnes, je pense, sujet au cœur de l'actualité, mais des personnes qui ont subi beaucoup de traumas, avec, je pense aux migrants, tu vois. Moi, j'ai travaillé aussi avec des, on appelle maintenant cette population des mineurs non accompagnés. À l'époque, c'était des, on appelait cette population les mineurs isolés étrangers. C'est en fait une formation où tu es amené à t'adapter. Oui, où tu travailles justement sur l'adaptation et le fait d'arriver dans un service, de devoir tout de suite être. Mais bon, c'est le cas aussi, j'imagine, pour les infirmiers ou d'autres métiers, hein, mais où tu dois être tout de suite dans le vif du sujet, quoi.
Oui, donc la formation, elle est très généraliste, et puis ensuite, c'est une faculté d'adaptation à avoir sur place pour pouvoir s'accorder à tous les publics qu'on rencontre. Le champ de compétences et la variété de publics que vous pouvez accompagner, elle est quand même incroyable, du coup. Des tout-petits, oui. Des personnes âgées, oui. Des gens, des migrants, des gens en difficulté sociale, c'est incroyable. C'est ça aussi, j'imagine, qui t'a attiré vers ce métier.
Ah oui, complètement. Le fait de pouvoir... Puis c'est aussi, tu vois, cette envie de montrer aussi qu'il y a des personnes qui ont des parcours très difficiles, qui ont connu des histoires, on a tous, d'ailleurs, des histoires qui sont pas simples, parfois, mais l'idée, c'est de les accompagner à un moment donné de leur vie, de pas s'installer dans un accompagnement qui soit trop pérenne, trop long, mais suffisamment pour pouvoir les équiper, quelque part, à s'armer pour la suite. Donc, ça demande un gros travail de partenariat, parce qu'on peut pas se suffire à nous-mêmes. Très souvent, on a besoin des autres aussi, hein, pour pouvoir faire un travail quand même... proposer une prise en charge globale, on a besoin de s'appuyer sur d'autres personnes, d'autres compétences, et puis de passer le relais aussi, et puis surtout de se dire que, moi j'ai mis du temps aussi à comprendre ça, mais à se dire qu'on est une personne dans le chemin dans le cheminement de vie de la personne qu'on accompagne, qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas un sauveur, qu'on va pas révolutionner sa vie, mais en tout cas que si on peut lui amener des outils, des petites pistes, des petites choses pour pouvoir lui permettre de cheminer en autonomie finalement, puisque c'est ça quand même le but, et ben ce sera un petit grain de sel, mais qui apportera sur le long terme quelque chose, quoi.
Oui, ça doit apprendre l'humilité à son maximum, quoi, j'imagine.
Ah ouais, c'est important. Et puis ça s'apprend aussi en travaillant en équipe. Moi, je ne peux que travailler en équipe. Je m'appuie vraiment sur... Je n'ai fait que ça et c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'enrichit. C'est le fait de pouvoir travailler avec des professionnels qui sont pas forcément du même métier que moi et qui ont une paire de lunettes différentes sur la situation. Et on s'enrichit comme ça et on propose quelque chose, je pense, de qualité parce qu'on travaille de cette façon. Je peux pas me suffire à moi-même.
Faut unir ses forces autour du patient. Il y a que comme ça que ça marche. Hein. Puis effet, comme tu dis, pour plein d'autres publics, pour plein d'autres métiers, c'est vrai, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, maintenant, on va se rapprocher de ta pratique actuelle. Donc, du coup, après ces 3 ans de formation, ces 3 stages qui étaient passionnants, hein, d'après ce que tu nous racontes, comment ça s'est passé, du coup, pour toi, la recherche du premier job vers quel établissement, quelle institution tu t'es tournée?
Alors, quand j'ai donc je passais mon diplôme en juin, en fait, j'avais cherché dans un premier temps un emploi saisonnier parce que je m'étais dit comme ça je prendrais du recul. Bon, très vite en fait, j'ai à la période d'essai en tant qu'animatrice en camping, je me suis dit non, c'est fini pour moi. J'ai rompu ma période d'essai et je me suis dit on va voir si je trouve un boulot rapidement ou pas. J'étais très sceptique hein, c'est pas facile de trouver un emploi facilement après avoir été diplômée. Et en fait, j'ai trouvé du travail tout de suite dans un foyer qui relève de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, un foyer qui accueille des adolescents qui sont sous mesure judiciaire, en fait. Donc, ils ont soit un contrôle judiciaire, soit des mesures de mise à l'épreuve ou des travaux d'intérêt généraux. Enfin, voilà. Et je suis restée en tant que contractuelle dans cet établissement pendant 9 mois. C'était très enrichissant, c'était aussi très difficile, avec des horaires où parfois je pouvais finir à 1h du matin. On avait des horaires, on faisait des nuits aussi. Pour une jeune professionnelle toute fraîche, c'est pas forcément évident, mais ça a été hyper formateur, vraiment. Et puis ensuite, après ces 9 mois-là, j'ai travaillé un peu à l'ASE. J'ai eu une période où j'ai multiplié les contrats en même temps. Donc, j'avais des contrats en foyer d'adolescents qui dépendaient de l'aide sociale à l'enfance. En même temps, je faisais des nuits dans un service d'accueil d'urgence pour mineurs isolés étrangers. Et en même temps, je travaillais à l'aide sociale à l'enfance. Donc, en fait, j'avais plusieurs contrats en même temps. Parfois, je signais des contrats pour une nuit. Il faut vraiment avoir envie de bosser. Mais moi, j'étais passionnée. J'avais qu'une envie, c'était d'enrichir mon CV, en fait. Et puis de connaître aussi différents lieux de travail. Après avoir fait tout ça pendant, on va dire, 6 mois, j'ai trouvé une offre d'emploi, donc en pédopsychiatrie. Mais alors, c'était pas dit comme ça sur Pôle emploi, tu vois. C'était une annonce en service jeunesse, je crois. Donc, je savais pas trop où je postulais.
Un peu vague.
Bah ouais, c'était pas très précis, quoi. C'était pour une durée d'un mois. Donc, je postule. Et puis j'ai reçu un courrier avec la fiche de poste, le plan, et là j'ai compris que c'était en hôpital psy, donc je connaissais pas grand chose, mais je me suis dit bon, on va y aller. Et puis j'ai eu la chance d'être recrutée en fait sur un départ en retraite. Donc c'était d'abord un CDD d'un mois, puis après 2 mois, 3 mois, puis tu finis par être stagiarisée au bout d'un moment. Donc c'était une belle opportunité, quoi.
Ouais, donc après ces 6 mois à découvrir un peu toutes les facettes du métier, tu t'es dit, bon, là, clairement, ça a l'air d'être le bon moment pour se poser et puis découvrir un poste plus en profondeur, quoi.
Ouais, c'est ça, mais tu vois, de prime abord, je pensais pas, puisque c'était que pour un mois. Donc, quand on m'a fait comprendre que finalement, c'était un poste à prendre, ben, je me suis dit, y a tout à apprendre, quoi. Mais c'était pas simple, hein. Je me suis beaucoup appuyée sur mes collègues infirmiers, sur le médecin. Moi, je connaissais rien au secteur sanitaire. Enfin, c'était vraiment, même au niveau hiérarchique, c'est quand même très différent de ce que j'avais pu connaître avant. Avant, tu vois, tu voulais faire une sortie avec des jeunes, paf, tu prenais dans la régie, tu y allais. À l'hôpital, tout est très protocolaire, il faut faire des demandes en avance. C'était un univers très, très différent, quoi. Donc, il a fallu que je fasse les choses pas trop n'importe comment, que je demande à mes collègues avant de prendre des initiatives. Et puis, par contre, très passionnant, quoi. Moi, je suis toujours passionnée aujourd'hui de travailler en pédopsychiatrie, quoi.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la notion de protocole. C'est vrai que c'est la base du milieu hospitalier, mais je comprends tout à fait que ça effraie ou que ça interloque quand on vient d'une autre structure et puis que tout est rangé dans des cases, il faut faire signer ci par telle personne, validé par un tel, une telle, ça doit être un peu bizarre au début.
Bah ouais, c'est ça. C'est que ça te laisse pas. Au début, moi, je me disais en termes de prise d'initiative et d'autonomie dans le travail, finalement, et en même temps, je trouve que tu vois, au début, je pensais ça. Et puis maintenant, je trouve que ça protège aussi un peu quand même de se dire que finalement, tout est un peu sur papier, ça laisse une trace et que quelque part, bon, voilà, t'es un peu protégé.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, ça n'a pas un côté un peu rassurant? Enfin, moi, pour l'avoir vécu, j'ai été dans des services où les protocoles étaient quasiment inexistants et j'avais cette sensation de travailler sans filet. Alors, ça peut pas être plus formateur, hein, parce que quand on peut compter que sur soi, bah, on trouve des solutions sorties de nulle part pour s'en sortir. Mais le côté très protocolisé peut avoir cet aspect aussi rassurant de se sentir voilà, guider, d'avoir, de savoir à qui s'adresser pour quel problème. Tu l'as ressenti comme ça aussi ?
Oui, c'est vrai que c'est rassurant. Après, ce qui m'a en plus surpris, c'est que moi, j'ai, quand on m'a donné mon emploi du temps, donc je travaille de 9h à 17h du lundi au vendredi, et on m'a donné mon emploi du temps, moi je pensais que c'était mon emploi du temps de la semaine, quoi, parce que moi j'avais jamais les mêmes horaires, jamais. Et en fait, ma cadre m'avait dit, ben non, mais en fait c'est tes horaires de semaine, mais pour l'année, quoi. Je me suis dit, d'accord. Donc je me suis dit, bon, à la fois c'est bien, mais en même temps, ça va falloir que je me familiarise avec une sorte de routine, tu vois, que je connaissais pas. Hein.
Mmh.
Donc,
complètement.
Prise en charge toujours à la même heure, termine à la même. Enfin, c'était très. C'était un monde très différent. Donc il m'a fallu une période d'adaptation quand même pour me faire à tout ça. Et puis en plus, on a des prises en charge individuelles, tu vois, là où je travaille. On a des prises en charge de groupe, donc des groupes thérapeutiques. Et on a aussi des prises en charge individuelles, donc éducatives dans mon cas. Mais moi, je travaille avec orthophoniste, psychomotricien, infirmier, psychologue. On a un médecin de l'unité qui donne un petit peu le sens du soin, enfin, qui amène sa direction de soin, on va dire, telle qu'il souhaite articuler les choses. Et puis, qui est prescripteur surtout. C'est-à-dire que c'est parce qu'il prescrit une prise en charge individuelle, éducative ou de groupe qu'on peut accueillir l'enfant. Et puis, donc, moi, je suis arrivée, j'avais, dans mon emploi du temps, peut-être 2 ou 3 prises en charge éducatives individuelles, mais j'étais seule avec l'enfant, mais finalement, au début, je savais pas trop quoi faire, quoi, tu vois, j'étais un peu, bon, d'accord, on va voir, quoi. Et puis, le médecin me disait, j'allais voir le médecin, puis elle me disait, mais fais-toi confiance, tu vas voir petit à petit, ouais, enfin, bon.
C'est hyper intimidant aussi, ouais. Se retrouver toute seule devant l'enfant. Ouais. Donc les prises en charge des enfants, elles se déroulent comme ça, des rendez-vous individuels avec toute cette catégorie de professionnels dont tu viens de parler, et puis ensuite, tu m'en avais parlé quand tu m'avais contacté, des médiations thérapeutiques avec une notion de triangulation. Est-ce que tu peux revenir, non, parce que moi du coup je suis déjà au courant, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce principe, parce que je crois que c'est vraiment intéressant.
Oui. Alors déjà, juste pour reprendre un tout petit peu rapidement, avant de répondre à ta question, les enfants, quand ils arrivent parce qu'ils sont orientés ou par l'école, ou par la PMI, ou par des crèches, par exemple, ou parce que les parents se disent « tiens, il y a un problème, je repère un problème ». Il y a forcément une première consultation avec le médecin, et ensuite, le médecin oriente vers des prises en charge si les parents sont d'accord. Et donc, nous, on travaille, que ce soit en groupe ou en individuel, avec cette médiation, cette fameuse médiation thérapeutique, qui peut être de la création, qui peut être de la musique, qui peut être finalement des histoires, un petit peu n'importe quel outil, activité en fait, mais qui a pour but de créer une relation avec le patient pour travailler sur des objectifs de soins précis. C'est-à-dire que par exemple en groupe, bah, l'idée ça va être de créer des interactions entre les enfants, que l'enfant il puisse laisser de la place à l'autre, prendre sa place pour certains, c'est pas non plus évident, se positionner, faire des choix, pour qu'en petit groupe de 5, puisque grosso modo, on va pas au-delà de 5, ils puissent se travailler des choses qui puissent ensuite avoir des répercussions sur un plus grand groupe tel que l'école, sur la classe, le groupe classe, et où finalement, ben, toutes ces difficultés relationnelles qui ont pu être repérées puissent progressivement évoluer et que l'enfant s'ajuste au niveau relationnel, en fait. En prise en charge individuelle, la médiation, elle va servir à trianguler, puisqu'en fait, on est dans une relation duelle, l'enfant plus le professionnel. Et c'est vrai que, on sait, hein, que parfois les enfants, surtout quand ils sont jeunes, ont du mal avec le face-à-face. L'idée dans une prise en charge comme celle-ci, c'est d'aider l'enfant à s'exprimer, qu'il puisse parler de ce qu'il a envie, mais qu'en tout cas, on puisse jouer, puisque le jeu est quand même notre principal outil de travail, hein, avec les enfants. Et donc, on va travailler sur tout ce qui est un peu jeu symbolique. Alors, c'est-à-dire, quand je dis jeu symbolique, ça va être, par exemple, moi, quand je suis avec les enfants, je peux jouer à la poupée ou je peux jouer au Playmobil, à ces choses-là. Mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que c'est pas de l'occupationnel, c'est du thérapeutique. Et pourquoi c'est du thérapeutique ? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand l'enfant, il va jouer et manipuler ses personnages, il va rejouer un petit peu ce qu'il vit à la maison, ou tout ce qu'il projette dans sa tête. Et c'est à partir de là, moi, que ça m'intéresse. Parce que toute l'agressivité toutes les difficultés qu'il rencontre, ça va se forcément transparaître dans son jeu, en fait.
Le jeu est presque c'est un biais, c'est un prétexte pour... pour l'amener vers ce qu'on a envie de voir, d'encadrer. Et puis, à travers le jeu, à travers l'activité, vous arrivez à déceler, voilà, comme tu disais, peut-être des formes d'agressivité ou de troubles sociaux ou de choses comme ça.
C'est exactement ça. Et puis, on a beaucoup d'enfants, parce qu'en fait, aujourd'hui, en pédopsychiatrie, on a beaucoup de situations aussi socio-éducatives. C'est beaucoup le cas, avec des enfants qui sont carencés, des enfants qui sont placés, des enfants qui ont subi de la maltraitance, et du coup, qui sont pas forcément passés par ces étapes de jeu étant tout petits, parce que des mamans qui étaient pas forcément disponibles pendant les premiers temps après la naissance, ou des familles un petit peu fragilisées. Et donc, il y a des enfants qui n'ont jamais joué. Et donc, forcément, l'enfant, quand le jeu, c'est quand même le premier élément qui permet à un enfant de se développer sur tous les aspects psychologiques, cognitifs. C'est comme ça que l'enfant, il grandit et il apprend à grandir. Et à s'exprimer, surtout, aussi. Donc, des fois, on est obligé de repasser par des étapes telles que la patrouille. Tu vois, des fois, moi, j'ai des jeunes de peut-être 10 ans, plus petit, plus grand, ça dépend, mais on repasse par de la patrouille, des transvasements de semoule, de la manipulation de pâte à modeler, des choses un peu archaïques, parce qu'ils n'ont pas passé tout ça. Et ils ont besoin de repasser par ces étapes-là pour pouvoir grandir, quoi.
Et ces enfants, ils sont déscolarisés du système scolaire classique pour venir en hôpital de jour, dans l'hôpital dans lequel tu travailles, enfin dans le centre psychothérapeutique dans lequel tu travailles, ou comment ça se passe pour eux, l'organisation des journées?
Alors en fait, c'est moi, en tout cas là où je travaille, on se base vraiment sur la scolarité de l'enfant. Donc il y a très très peu d'enfants qui sont déscolarisés. Ça peut arriver. C'est souvent les enfants qui présentent des pathologies importantes. Donc nous, on va dire que ça concerne peut-être 3 enfants sur la globalité des enfants qu'on accueille, donc sur une centaine à la semaine, donc ça représente peu. Les autres enfants, ils sont scolarisés, et nous, on propose par exemple un groupe thérapeutique qui peut durer de 1 heure à 3 heures, ça dépend. On a des groupes sur l'extérieur, ça peut être 3 heures, tu vois, mais donc pendant ces 3 heures-là, ils sont hors temps, ils sont en dehors de l'école, évidemment, mais ils retournent à l'école. En fait, il y a beaucoup de taxis, on fonctionne avec des compagnies de transport qui font les allers-retours avec en taxi de l'école à la maison ou à l'école. Et les enfants sont quasiment tous scolarisés. Alors, ils peuvent être en IME pour certains, ils peuvent être en classe ULIS, donc c'est des classes spécialisées, un petit peu aménagées, et puis pour lesquelles il faut quand même une notification de la maison de l'autonomie pour pouvoir avoir une scolarité aménagée. Et puis d'autres sont en système scolaire ordinaire.
Et ensuite, vous, votre rôle, donc c'est d'accompagner ces enfants et de toujours garder le lien avec donc les parents, ça me paraît évident, mais le médecin, le psychiatre qui travaille avec vous, la PMI, si c'est la PMI qui vous envoie les enfants, l'école, si c'est l'école qui a décelé un trouble, vous êtes toujours en train de peut-être faire un feedback envers ces personnes pour donner des nouvelles, des progrès, comment ça se passe?
Alors, une fois que le relais est fait, tu vois, par exemple, la PMI, alors le médecin de la PMI peut se mettre en lien avec le médecin pédopsychiatre de notre unité, mais une fois que le relais est fait, voilà, on prend la suite. On n'est pas forcément sauf si on a des éléments d'inquiétude, ça peut arriver, mais c'est assez rare qu'on se remette en lien avec eux. Mais par contre, on s'accorde avec l'école. On est tout le temps en lien avec l'école si les parents nous donnent l'autorisation, mais c'est souvent le cas. Avec les éducateurs, s'il y a un suivi éducatif, on se met aussi en lien. On a des entretiens évidemment réguliers avec les parents, en plus des consultations qu'ils ont avec le médecin pour leur faire part du suivi et puis de notre disponibilité aussi. Et puis, s'il y a des prises en charge médico-sociales en plus, on se met en lien aussi. Il y a beaucoup d'orthophonie aussi qui se fait en libéral, de psychomotricité aussi en libéral. Pour des parents, parce que nous, on a quand même beaucoup d'attentes, en fait, on n'a pas suffisamment de professionnels disponibles pour pouvoir répondre à la demande, en fait, ce qui est un petit peu frustrant en tant que service public de pas pouvoir répondre à cette demande. Mais malheureusement, voilà, on a des enfants qui sont pris en charge. Par exemple, j'ai des enfants qui viennent me voir et les parents, il y aurait des besoins en psychomotricité ou en orthophonie, et je suis obligée de leur dire, bah, il y a un délai de 2 ans. Donc, si vous avez les moyens, parce que l'orthophonie est remboursée en libéral, mais pas la psychomotricité. Donc, en gros, si vous avez les moyens, dirigez-vous vers le libéral, quoi.
Ah là là, qu'est-ce que c'est triste.
Ouais.
Ouais, de pas pouvoir proposer un encadrement global avec tous les acteurs du paramédical. Ouais, 2 ans d'attente, ça, c'est hallucinant.
Ah ouais, surtout pour des petits. Parce que, bon, tu peux te dire que, enfin, en 2 ans, ça peut évoluer, ça peut devenir catastrophique, quoi.
Ah ouais, c'est vraiment triste. Ça, c'est pour toi, c'est une des plus grandes difficultés que tu rencontres au quotidien.
Oui, puis c'est une des difficultés, et puis l'autre, c'est d'apprendre aussi à se dire que on fait ce qu'on peut aussi. Voilà, parce que je pense que moi, c'est quelque chose que c'est vrai que je suis assez positive en fait dans la vie. Mais je trouve que plus ça va, moins on nous donne les moyens quand même. Et on a envie de se démener pour les patients qu'on accompagne. Enfin, je pense que c'est le jour où on n'a plus ça, faut changer de métier. On a envie de se démener pour les patients qu'on accompagne. Mais à un moment donné, voilà, je pense qu'on prend des notes, on communique les choses. Et il arrive un moment, faut aussi savoir se dire, ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Là aussi, l'équipe est ressource, hein, parce que... ça aide aussi, hein, à relativiser, à prendre du recul et à se dire, bah voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, et puis à un moment donné, voilà, j'arrive à mes limites, quoi. Donc je passe le relais il se fait pas, mais en tout cas moi j'ai fait ce qu'il fallait, quoi.
Ça doit être terriblement frustrant de se dire ça.
Bah ouais, et puis tu vois, nous on a un médecin qui vient de quitter le service, donc notre médecin est vraiment parti, il a changé de secteur d'activité. Et on est sans médecin, c'est pas la première fois que ça arrive, on a déjà été sans médecin. Mais la psychiatrie, c'est pas parce que il y a pas d'enjeux vitaux entre guillemets que c'est moins important finalement, parce que on travaille quand même avec des personnes qui avec des patients qui sont en souffrance psychique et pour lesquels il y a des traitements, il y a quand même un suivi médical qui est très important. Et on peut pas, en plus moi en tant qu'éduc, tu vois, encore plus, hein, je peux pas, j'ai mes limites, quoi. À un moment donné, je suis pas médecin, quoi. Donc on a vraiment besoin d'être soutenu et on peut pas se suffire à nous-mêmes. Donc on peut faire des entretiens médicaux, ça sera pas des consultations, quoi. Donc ouais, c'est un peu c'est un peu frustrant des fois.
Merci beaucoup Pauline pour tout ça, pour avoir réussi à mettre en lumière ce que tu fais. Et Dieu sait que le champ des compétences, comme tu viens de nous le montrer, est vaste. C'est vraiment très très intéressant d'entendre tout ça. Et moi, d'un point de vue personnel, le métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier que je connais mal. Donc je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je suis ravie que tu aies pu nous expliquer en quoi consistaient tes journées, même si je pense que tu m'as pas raconté 1% de ce qui se passe. Mais c'est passionnant, en tout cas, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup à toi, hein, de m'avoir permis de pouvoir en parler.
Avec grand plaisir. On va finir cet épisode avec, comme tu le sais, le petit portrait chinois. Donc la première question que j'ai à te poser, c'est si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors, je crois que si je pouvais, j'inventerais un outil pour faire des journées de 48 heures. Parce que j'ai jamais le temps de faire la moitié de ce que je veux faire, que ce soit au boulot ou dans ma vie perso, hein, d'ailleurs. Donc, ouais, de rallonger les journées, ça serait super.
Ouais, le 9h-17h, clairement, t'arrives pas à faire rentrer tout ce que tu voudrais y mettre.
Ah non. Puis plus ça va, plus on nous demande, alors tu vois.
Oh, ouais, j'imagine. La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail ?
Bah, tu vois ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on fait ce qu'on peut. Je crois que c'est ça que j'arrête pas de dire, c'est qu'on fait ce qu'on peut et on a envie de toujours faire bien et on se donne, hein, parce que nous on est dans une équipe où vraiment tout le monde se donne, mais on fait ce qu'on peut.
Avec ce qu'on a aussi. Question suivante, si tu étais une activité thérapeutique, laquelle serais-tu ? Alors j'ai utilisé le terme activité thérapeutique, mais voilà, tu peux mettre ça voilà, à ta sauce.
Oui, non, mais c'est très parlant, bien sûr, je vois bien de quoi tu parles. Bah, Moi, j'aime beaucoup les médiations d'expression comme le théâtre, la musique et la création. Mais si je devais choisir, je dirais le théâtre.
C'est ce qui fait ressortir le plus de d'émotions, de...
Bah, c'est parce que moi, j'ai fait du théâtre plus jeune. Donc, je trouve que c'est toujours plus facile de proposer une médiation qu'on connaît bien. Parce que, mine de rien, les enfants, ils ont quand même quelques attentes. Hein. Si tu leur proposes du bricolage, mais que t'es pas bricoleuse et que tu sais pas te servir d'un outil, ils vont le sentir, ça va pas les sécuriser. Donc, ouais, moi, puis pour en avoir fait un peu avec les jeunes, je trouve que c'est une médiation qui leur permet de s'exprimer avec le corps, avec la voix. Il y a plein de paramètres qui font que je trouve que ça peut être intéressant.
Très bien. La question suivante, plutôt thé ou café ?
Thé à la maison, café au boulot. Sans café, c'est pas possible.
Ensuite, plutôt crocs ou basket ?
Basket, moi. Les crocs, on n'en porte pas, nous, okay. Au boulot.
Et d'ailleurs, au niveau de la tenue vestimentaire, est-ce que tu as une blouse en haut et en bas ou est-ce que tu gardes tes vêtements civils ? Non,
je suis en blouse en haut, mais on ne porte pas de pantalon.
D'accord.
Mais c'est vraiment en lien avec le Covid, hein, parce qu'autrement, on est en civil. Hein.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé ce métier, vers quelles études ou quel métier te serais-tu orientée ?
Alors... J'aurais bien aimé m'orienter vers une forme, enfin vers. J'aurais bien aimé faire de la politique en fait, je crois.
Ah ouais.
À un moment donné, ça m'avait traversé, tu vois, Sciences Po et tout. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est comme avocate vétérinaire, si tu veux. À un moment donné, c'est pas possible. Mais ouais, j'aurais bien aimé, tu vois. À un moment donné, j'étais très revendicatrice, avec beaucoup de conviction. Et j'aurais bien aimé, mais ça, quand je te dis ça, c'est fait un moment, hein, mais voilà, apporter ma vision un peu des choses et essayer de changer les mondes. Mais bon.
Bon, rien d'impossible après tout, hein. Tu peux très bien te lancer dans une carrière parallèle à côté.
dans une autre vie, on va dire.
Ouais, ou dans une autre vie, exactement. Bon, bah merci Pauline, c'était passionnant. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré en savoir plus sur ce métier et je vois que tu l'exerces avec tout ton cœur. Ça fait vraiment très plaisir à entendre.
Ouais, bah merci à toi de m'avoir reçu et puis d'avoir mis à l'honneur aussi le métier d'éduc dans ta chaîne de podcast. C'est vraiment un grand honneur. Et puis ça montre bien aussi toute ta souplesse d'esprit et le pourquoi je te suis depuis longtemps. Voilà.
Oh, t'es un amour. Merci beaucoup, Pauline.
Merci.
À très bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Un grand merci à Pauline pour ce partage d'expérience si enrichissant. J'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir davantage sur le métier d'éducateur spécialisé, qui représente un maillon si important auprès de la chaîne des professionnels paramédicaux. N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles sur l'appli de podcast que vous utilisez, cela m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.